Duke, un hommage à Duke Ellington évidemment. Stevie Wonder l'a écrit un peu après la mort du jazzman en 1974. Et d'ailleurs, tout l'album dans lequel figure ce morceau est une petite merveille. L'album s'appelle Songs in the Key of Life. Et d'ailleurs, tiens, on surnommait Stevie la merveille. Allez, merveilleuse nuit à vous. Place tout de suite au sport avec Jacques Vendroux. Jacques Vendroux qui est aux commandes du Studio des Légendes tous les vendredis de 21h à 22h sur Europa.
Bonsoir. Trois invités ce soir dans le Studio des Légendes. Souleymane Diawara, ancien international sénégalais, ancien joueur de l'OM, des Girondins de Bordeaux, qui va nous présenter la finale de dimanche soir de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Deuxième invité, Florian Anselme, qui vient d'écrire un livre formidable, Paris Saint-Germain All-Star, aux éditions Amphora. Et troisième invité, Alain Giresse, hommage à Roland Courbis, réalisation Guillaume Vasseau, coordination Océane Daniel.
Europe 1, le studio des légendes, Jacques Vendroux.
Bonsoir Souleymane Diawara.
Bonsoir mon Jaco.
Merci d'être venu ce soir dans ce studio des légendes.
Merci de m'avoir invité, surtout.
Parce que dimanche, il y a un événement. La finale de la CAN, à 20h, à Rabat, la Coupe d'Afrique des Nations, entre le Maroc et le Sénégal. Vous êtes international sénégalais.
Ancien.
Vous avez joué à Marseille. Vous avez joué à Bordeaux. Vous avez joué dans des grands clubs. Vous êtes une référence, plus de 40 sélections dans cette équipe du Sénégal. Et j'ai un pressentiment, Souleymane, je vous le dis, je crois que le Sénégal va gagner.
Ah, là, tu me fais plaisir déjà quand tu parles comme ça. Ah, mais bon, tout le monde espère.
C'est un pressentiment, hein.
Oui, bah, j'espère que c'est un bon pressentiment. Mais bah, tout le monde espère. Hein. Tous les Sénégalais, surtout, espèrent que le Sénégal ramène cette deuxième CAN au Sénégal. Mais bon, enfin, c'est une équipe marocaine qui ne sera pas du tout facile. En plus, le match d'hier a montré que le Maroc commence à monter en puissance. Mais en tout cas, ça sera une belle affiche. Ça sera un beau match, ouvert, puisqu'il y a un titre en jeu. Voilà, rendez-vous dimanche 20h.
Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le football sénégalais? C'est quoi l'état d'esprit? C'est quoi?
Je vois, moi, en tout cas, une équipe qui sont contents d'être ensemble. La joie de vivre, s'amuser, et talentueux surtout. Le principal, c'est qu'elle est talentueuse, c'était cette jeune équipe sénégalaise, avec beaucoup de jeunes qui commencent à intégrer ce groupe. Donc, c'est de bon augure pour le futur.
Alors, vous avez fait une carrière formidable, l'Olympique de Marseille notamment.
Bon, c'est gentil ça.
Non mais c'est vrai, vous le savez, les Girondins de Bordeaux avec Laurent Blanc, etc. Vous le savez tout ça. La sélection, ouais. Vous avez été sélectionné. Ouais. Ouais. C'était le rêve de gosse qui passait à la réalité. C'était ancré chez vous.
Rêve de gosse, je dirais pas rêve de gosse, mais quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, je me suis dit pourquoi pas un jour l'équipe de France ou l'équipe du Sénégal. Mais c'est vrai qu'après la Coupe du Monde 2002, où l'équipe du Sénégal a fait un excellent parcours. Où c'était l'euphorie, j'ai eu la chance d'être appelé par l'adjoint qui était Amara Traoré, qui était l'adjoint de Bruno Metsu, paix à son âme. Et j'avais le choix entre l'équipe de France A' et l'équipe nationale du Sénégal. Et l'équipe de France A' m'a appelé en premier, et j'en ai parlé avec Jean-François Domergue, que tu connais très bien. Et il me disait, il était en train de me convaincre pour que j'aille avec l'équipe de France A'. Mais pour moi, l'équipe de France A', c'est un match tous les ans, je crois, ou je sais même pas si ça existe encore, ça existe plus. Hein. Et il y avait en même temps l'équipe du Sénégal qui m'appelle après la Coupe du Monde. C'est vrai que mon choix a été vers l'équipe du Sénégal parce que un, c'était l'euphorie, deux, c'était des joueurs comme Eladj, Kali, puis Mamad aussi, qui m'ont convaincu aussi de les rejoindre. Et après, j'en ai parlé aussi à mes parents, qui sont bah, bien évidemment sénégalais. Et ensemble, on a décidé d'aller au Sénégal, tout simplement.
Votre père l'aurait mal pris ?
Non, il aurait pas mal pris du tout. Mon père, il est fier, il était fier d'être français, sénégalais d'origine. Donc, pas du tout. Comment on peut pas être fier d'avoir un fils aussi qui joue pour l'équipe de France, quand même? On parle de l'équipe de France, quand même.
Oui, mais c'est à prime, pas pareil.
Ouais, là ouais. C'était après, mais en général on fait après, après on enlève la petite prime, tu vois.
Cyril de la Morinerie.
Merci Souleymane Diawara d'être avec nous dans le studio des Légendes. Merci à Jacques aussi pour toutes ces interviews hors du commun. Vous faites partie de ces personnages hors du commun parce que, évidemment, quand on pense au foot, on pense à vous, on pense à votre solide carrière en tant que défenseur, à tous ces clubs, et aussi au fait que, eh bien, du côté du Sénégal, vous avez rayonné. Ça a été une période incroyable, tout ce que vous avez fait du côté du Sénégal, même s'il n'y a pas eu cette Coupe d'Afrique des Nations au bout. Au niveau humain, ça a dû être fabuleux, non?
Je me suis régalé pendant une dizaine d'années. Où j'ai vu le bonheur du peuple sénégalais. Pourtant, ils n'ont pas grand-chose, mais leur donner le sourire avec un ballon de foot, ça procure une émotion particulière. Je dis ça parce que c'est vrai qu'on n'a rien gagné avec l'équipe du Sénégal, malheureusement. Mais j'ai vécu un moment extraordinaire. J'ai fait la rencontre de personnes extraordinaires. J'ai découvert mon pays qui est extraordinaire. Des gens
qui est surtout très très beau.
Oh, ouais?
Ah oui.
T'aimes beaucoup?
Ah, j'adore.
Non, mais après, le Sénégalais, lui, on le sait. On sait que le Sénégalais est accueillant.
Le Sénégalais, pour moi, il est chaleureux.
Exactement ce que j'allais dire.
Il a ce
dire.
Côté espiègle et provocateur qui est très agréable.
Toujours. Et chambreur aussi.
Chambreur, allumeur. Et donc, moi, j'étais au Sénégal à plusieurs reprises. J'y ai passé vraiment de bons moments. C'est pas. Je dis pas qu'on était chez nous, mais on était presque chez nous.
Ouais,
franchement.
Il t'accueille super bien, le Sénégalais. C'est vrai. Non, mais pour revenir un peu à la question, c'est que. Je me suis régalé. J'ai rencontré, comme je vous ai dit tout à l'heure, des personnes extraordinaires. Et surtout de voir la fierté aussi de ma famille, des Sénégalais, que je puisse venir porter le maillot du Sénégal, parce que ils étaient au courant aussi pour l'équipe de France à prime. Mais c'était une fierté. Mais c'était une fierté aussi pour moi.
Ce qui est important, Souleymane Diawara, je parle sous votre contrôle, Cyril de la Morinerie. Qu'est-ce que vous gardez? Non mais, vous pouvez aussi donner un conseil. Qu'est-ce que vous gardez de cette période de 511 matchs professionnels? Le Havre, Sochaux, Charlton, les Girondins de Bordeaux, l'Olympique de Marseille, Nice. Qu'est-ce que vous gardez de cette période quelque part magique?
Superbe. Comme vous le dites, magique, super. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve, c'est-à-dire de jouer au foot, de vivre de ma passion. Donc, c'est que des moments magiques. Et je suis privilégié, j'ai été privilégié, donc que du bonheur, que du bonheur.
Alors, on va parler quand même du Maroc, parce que c'est quand même votre adversaire dimanche.
Ouais.
comment vous la voyez, cette équipe du Maroc? Allez, vous êtes, vous êtes plus sénégalais. Pendant quelques secondes.
Ouais, non, on l'a tous vu, depuis que Walid Regragui a repris l'équipe, la sélection du Maroc, c'est un autre visage. C'est une équipe plaisante à voir jouer, qui détient le record de matchs gagnés. Je crois 18 matchs d'affilée. Et là, durant cette CAN, elle monte en puissance. Donc, ça va être très compliqué dimanche. Mais il n'y a rien qui est facile.
L'organisation est pas mal, les stades.
Je n'ai pas eu la chance d'aller, mais j'ai été commenter j'ai fait quelques plateaux en tant que consultant pour une chaîne africaine. Et. C'est un régal. C'est un régal, le stade, l'ambiance, surtout les pelouses où on a souvent été critiqué par rapport à l'état de la pelouse. Mais au Maroc, quand on voit les stades, ils n'ont rien à envier à l'Europe, aux États-Unis, parce que, comme on a pu le voir, ce sont des installations juste magnifiques.
Est-ce que Souleymane Diawara, Sadio Mané, qui a marqué et qui marque souvent, notamment au tour précédent, est-ce que Sadio Mané, ça va être vraiment le déclencheur, le joueur qui est, selon vous, hors norme? C'est quand même une immense star.
Oui, c'est Sadio Mané, tout le monde le connaît. Tout ce qu'il apporte au Sénégal, même au-delà du football, ça va beaucoup plus loin. C'est une immense star. L'équipe du Sénégal compte sur lui, bien évidemment. Encore une fois, le match d'hier face à l'Égypte, où c'était un match très fermé, il a su débloquer cette situation. Donc, bien sûr qu'on va compter sur lui. Mais il n'y aura pas que lui, parce que... certes, c'est une star, mais il y a d'autres joueurs sur qui il va falloir compter, parce que c'est un groupe qu'il va falloir être à 100% pour pouvoir gagner contre le Maroc. Ça ne sera pas que Sadio Mané.
Vous l'avez dit à plusieurs reprises, l'équipe du Sénégal, c'est différent, c'est autre chose. C'est autre chose. Mmh. C'est une équipe qui est forte, vous l'avez dit.
Ouais.
C'est une équipe qui est plaisante.
Ouais.
Et c'est une équipe, même si tout le monde pense que le Maroc est favori, qui a la possibilité de gagner. C'est ça qui est important.
Bien sûr.
Non, mais il y a des gens qui disent le Maroc est grandissime favori, patati, patata.
Ben, c'est normal.
Mais moi, j'y crois pas.
Mais c'est normal qu'on dise que le Maroc soit favori, parce que déjà, ils sont chez eux. C'est une très belle équipe. Depuis le Mondial, ils font des choses extraordinaires. Donc, et puis, ils jouent bien au ballon. Donc, c'est normal qu'on dise que le Maroc est favori. Mais, on verra dimanche.
Est-ce qu'on peut jouer un peu les anciens combattants, Cyril ? Vous m'en voulez pas ?
Non, mais
est-ce qu'on peut revenir sur ce match extraordinaire en 2002 entre la France et le Sénégal ? Ce match extraordinaire.
Ouais, bon, moi je n'étais pas là.
Mais... oui, non, mais je sais que vous n'étiez pas là, mais on en parle tout le temps.
Pour nous, c'est un traumatisme en tant que Français, mais pour les Sénégalais,
C'était comme si on avait gagné la Coupe du Monde, parce que la France venait d'être champion du monde.
Bien sûr.
Et le Sénégal,
champion d'Europe,
aussi, les deux. Et le Sénégal, on n'avait jamais fait de Coupe du Monde. Première participation, tu joues contre... quand tu vois le groupe, tu vois la France, tu dis « Ah ouais, bon... » content, excité, parce que tu joues contre le champion du monde. Et quand tu gagnes contre la France, ça y est, la Coupe du Monde, c'était fini. C'était nous les champions du monde. On voulait arrêter là, prendre la Coupe à la France et rentrer au Sénégal avec. Mais c'était juste une fête. C'était magique, c'était exceptionnel au Sénégal. Moi, j'ai eu la chance, j'étais au Sénégal. Et waouh, c'était incroyable. Il n'y avait que ça.
Et quand Diouf marque, c'est incroyable.
pas Bouba Diop qui marque. Quand il marque, comme en tant que supporter, tout ce que t'as dans les mains, tu le jettes, tu danses. Et en Afrique, c'était waouh, tout le monde est sorti de chez lui pour aller crier, danser et revenir. Mais le pire, c'était pas quand il marque, c'est au coup de sifflet final. Non, c'était émeute en ville, drapeau, tout le monde chantait, tout le monde dansait. On était tous heureux. C'était un moment inoubliable.
Cyril de la Morinerie.
Quand on regarde cette équipe du Maroc, et pardonnez-moi d'être un peu le poil à gratter de cette émission,
pas du tout. Mais on va pas être fâché.
Je peux ressentir dans le sujet.
Mais oui, continuez de me parler, Jacques. Mais oui, vous inquiétez pas.
Bon, Achraf Hakimi.
Moi, je suis pour le Sénégal et vous êtes pour le Maroc. C'est clair, et c'est tout, on n'en parle plus.
Bon, en tout cas, c'est vrai que le Maroc est celui qui organise cette compétition et l'attente est énorme avec des joueurs. Fantastique, comme Achraf Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain, nommé donc dans la liste des Ballons d'Or. Il est revenu de blessure durant cette CAN. Et puis Brahim Diaz, avec 5 buts en 6 matchs, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont vent en poupe, cette équipe marocaine.
Oui, comme je vous l'ai dit, c'est une très belle équipe marocaine. Hein, avec Hakimi, Brahim Diaz, Aguerre... il y a plein d'autres joueurs, mais...
Et vous avez joué en plus à Chamakh, par exemple, par Marwan Chamakh, qui était votre coéquipier
à Bordeaux. Ouais, exactement.
C'est des footballeurs extraordinaires. Bien évidemment, le Sénégal aussi, mais le Maroc, il y a aussi un sacré ADN de football.
Mais après, ça ne m'étonne pas. En plus, encore une fois, avec tout ce qu'ils ont fait, les installations, le centre d'entraînement, c'est normal qu'ils sortent des pépites. Donc, Moi, je suis pas étonné. Je suis pas étonné de voir les Marocains à ce niveau-là. Ce sont les meilleurs joueurs, en parlant notamment d'Hakimi, qui est le meilleur latéral pour moi au monde. Mais voilà, ils sont là, nous on est là, on est prêts. Et comme je vous le dis, ça sera un beau match dimanche.
Et il y a une tradition dans cette émission, le studio des légendes, de ce vendredi soir. Vous avez choisi un grand succès français que nous allons écouter. Et vous avez choisi la chanson de Renaud. J'adore le titre, Dès que le vent soufflera.
Ah, tout le monde sait que je suis fan de Renaud, moi.
On écoute.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés.
Assise Renaud, vite, dès que le vent soufflera, choisi par Souleymane Diawara. Souleymane, je voudrais qu'on continue un petit peu à parler du Maroc. Le Maroc, ça date pas d'aujourd'hui, en Coupe du Monde, etc. Ils ont été brillants. Sur cette Coupe d'Afrique des Nations, ils sont extrêmement brillants, etc. C'est quoi la force du football marocain? L'idéal, c'est quoi? C'est le collectif? Mais c'est certaines individualités très fortes?
Les deux. Il y a tout, parce que des individualités, comme on le citait tout à l'heure avec Brahim Diaz, mais il y a surtout un collectif qui a été mis en place par Walid Regragui et qui fonctionne très bien. Donc. Cette équipe-là nous impressionne de plus en plus, surtout même à la CAN où au début, les gens ont été, je trouve, assez sévères au niveau, par rapport aux Marocains, parce que, vous savez, une compétition, le début, on part toujours lentement et après on monte en puissance. Ils l'ont montré hier face au Nigeria, qui était une grande nation, qui avait fait un très bon début de compétition et qui était meilleure attaque de la compétition et on a vu les Marocains monter en puissance où ils ont réussi à canaliser cette équipe nigérienne qui n'était pas facile. Donc effectivement, je pense que c'est plus un collectif que des individualités.
Qu'est-ce que vous retenez sur votre carrière de la Coupe d'Afrique des Nations? C'est le summum?
En Afrique, c'est le summum, exactement. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de faire une Coupe du Monde. On n'a pas été qualifié sur une dernière journée, mais quand t'es joueur...
C'est le must.
C'est exactement ça, c'est le plus haut, quoi, après la Coupe du Monde. Donc il n'y a eu que des... Non, mais je garde que des bons souvenirs, même si ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais, mais je garde que des bons souvenirs durant les CAN.
C'est une compétition hors norme, on l'a dit tout à l'heure avec la Coupe du Monde. Ouais. Actuellement, il y a la Coupe du Monde de football et la Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais. Et encore... c'est plus les Coupes d'Afrique de maintenant où, là, maintenant, tu vois, quand vous allez avant ça là, en Côte d'Ivoire, où les stades ils sont magnifiques, les pelouses elles sont belles. Nous, c'est pas pour se plaindre ou quoi, mais les pelouses n'étaient pas trop ça, à part en Tunisie, quand on a fait la CAN 2004, où les pelouses elles étaient juste magnifiques. Mais c'était un kiff, quoi. Je me suis régalé pendant les CAN.
Dimanche soir, vous allez regarder le match, évidemment, comme nous tous. Il va y avoir de l'impatience, de l'émotion. Parce que c'est votre pays, quand même.
De l'émotion, ouais. Un peu. Alors, surtout de joie. C'est une finale, quoi. Donc, on va tous être contents. Un peu d'émotion, c'est normal. Mais surtout de la joie, quoi. La joie de faire une finale. En plus de ça, c'est la dernière de Sadio. Il ne faut pas que le Sénégal déconne, quoi, tu vois. Donc, j'espère que ça sera une grande fête pour nous, les Sénégalais. Et voilà, mais en vrai, que le meilleur gagne, c'est tout.
Cyril de la Morinerie.
Quand on regarde votre carrière, je sais que Jacques va être d'accord. Le Havre, immense club, doyen des clubs de Ligue 1. Sochaux, un club mythique qui a gagné le championnat. Vous avez remporté la Coupe de la Ligue avec Sochaux. Bordeaux, qui malheureusement, et c'est encore plus difficile que Sochaux, est redescendu très bas. L'Olympique de Marseille, également. Nice, bon, un petit peu d'Angleterre. C'est absolument incroyable, votre carrière. Incroyable.
Est-ce que vous vous rendez incroyable. Compte
Vous vous rendez compte de ça, oui.
Non, mais je crois que ce qui est bien chez vous, Souleymane, c'est que je crois que vous ne vous rendez pas compte que vous avez fait une magnifique carrière. Parce que vous êtes humble, parce que ça fait partie de votre culture, etc. Vous n'en faites pas des tonnes, etc.
Ouais, non,
mais
non.
Mais attendez, c'est une belle carrière, quand même.
Oui, bah, oui, c'est sûr. Bah,
attendez, quand même.
Ça va, quoi, mais...
Moi, j'ai joué à Calais, c'est tout. Hein.
Vous avez joué déjà, c'est bien.
Ouais.
Vous avez joué, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est une belle carrière. Je savais même pas que j'avais fait 511 matchs, donc...
511 matchs en professionnel.
Donc, oui. Mais c'est pas non plus exceptionnel, je veux dire.
Pardon ? Non, c'est exceptionnel, attends, il n'y en a pas. Et des joueurs qui font plus de 500 matchs, il n'y en a pas des kilomètres, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
C'est vrai.
Il y a Alain Giresse, il y a Jean-Luc Ettori, je veux dire, excusez-moi. Hein.
Ouais, en plus j'aurais pu en faire plus si j'étais un peu plus sérieux.
Voilà, voilà.
Non, mais c'est bien. C'est bien, je suis content, j'ai aucun regret.
Comment votre famille réagit à tout ça, à cette carrière ? Vos parents, par exemple, votre père.
La vérité, mon père, malheureusement, il n'est plus là, mais c'était une personne qui n'était pas expressif. Mais je sais qu'il était fier, mais il n'était pas expressif. Mais je sais que quand il parlait avec mes frères et sœurs, il était content de dire « Ah, t'as vu mon fils, là. » Mais jamais il va me dire « C'est bien mon fils, je suis fier de toi. » Mais je sais qu'il était fier de moi. C'est surtout ma mère qui était contente, qui était plus expressive. Mais je pense qu'ils sont quand même fiers de moi chez moi. Ouais.
Au Sénégal.
Sénégal, ici aussi, au Havre.
Cyril de la Morinerie.
Comment vous choisissez tous ces clubs ? Parce que s'il y a un point en commun entre toutes ces formations, c'est qu'il y a un palmarès énorme, qu'il y a beaucoup de supporters, qu'il y a un poids de responsabilité ouais. important quand on porte le maillot de ces clubs. Est-ce que ça a été aussi un fil conducteur pour vous ?
C'est... Par exemple... Mais moi, j'ai toujours voulu jouer en une Coupe d'Europe. C'est vrai que Lille était très chaud pour me recruter, mais j'ai hésité. Quand Sochaux est arrivé, et puis j'avais l'objectif d'aller jouer en Angleterre. Donc je me dis, si je vais à Lille, c'est vrai qu'il y aura plus de recruteurs anglais. Mais si tu vas à Sochaux, tu auras la chance de jouer la Coupe d'Europe. Donc je pesais le pour et le contre, et finalement j'ai choisi Sochaux par rapport à ça, parce que j'avais envie de jouer cette Coupe d'Europe. Et c'est un choix que je ne regrette pas du tout, où je me suis éclaté aussi à Sochaux. Après, j'ai eu la chance.
Et Bordeaux
oui,
quand Laurent Blanc vous voit, il y a quelques jours, à Béziers, au jubilé, entre guillemets, de Richard Gasquet, organisé avec le Variété, il y a une complicité incroyable entre vous.
Ouais, ben,
incroyable.
Oui, bah.
J'ai l'impression qu'il a même une certaine forme d'admiration pour vous.
Non.
Quelque part, non mais.
Vous abusez là.
Non mais il est.
Non mais après j'ai une relation particulière avec Laurent Blanc et Jean-Luc Gasset,
bien sûr.
Malheureusement qui nous a quittés. Mais c'était une relation fraternel, paternel,
de confiance.
De confiance. Il m'a fait confiance et il fallait que je le rende sur le terrain. Et c'est ce qui s'est passé à Bordeaux. Parce que c'est vrai que mes débuts à Bordeaux, c'était catastrophique, mais personne ne s'en rappelle. Donc, Jean-Luc Gasset et Laurent Blanc ont réussi à me redonner confiance en moi pour retrouver mon niveau. Et donc, à partir de là, voilà, on est parti à la guerre ensemble et ils ont pu compter sur moi comme moi j'ai pu compter sur eux aussi.
Et Marseille ?
Marseille, nickel.
Parce que Marseille, c'est le rêve aussi.
Ouais, bah.
C'est Marseille.
Moi, j'ai toujours été fan de l'OM depuis tout petit, depuis l'époque de Chris Waddle, Francesco Lee. Donc, c'est vrai que quand j'étais à Bordeaux, j'étais loin d'imaginer de signer à l'OM. Parce que, avant Marseille, je devais aller à Séville, FC Séville. Bah, ça ne s'est pas fait parce que, bon, c'est entre dirigeants. Et le PSG. Ouais, de Charles Villeneuve. Ça ne s'est pas fait. Et j'entends Marseille qui vient derrière. Mon rêve, le club de mes rêves. Il vient qui me dit, on te veut. Je dis, ah ouais, bon. Deschamps qui t'appelle. T'as Laurent Blanc à Bordeaux. Et 2 ans après, il y a Deschamps qui t'appelle. Marseille, ça reste Marseille, quoi. Marseille, on ne peut pas refuser. Donc il m'appelle et je lui dis, écoute, coach, moi, je suis chaud, je suis d'accord pour venir à Marseille. Maintenant, il faut vous entendre avec les Girondins de Bordeaux. Donc, bon, un peu compliqué, mais bon, ils ont trouvé un terrain d'entente et c'est pour ça que je finis à Marseille, exactement.
Merci Souleymane Diawara.
Merci à vous.
Merci
surtout.
En tous les cas de,
c'est déjà
de
fini.
Nous avoir raconté, oui, malheureusement.
Ah.
De nous avoir
vite, hein.
Parlé de cette finale de la CAN qui a lieu donc dimanche soir, mais surtout aussi de nous avoir parlé de vos souvenirs, c'est ça qui est important.
Parce
merci
que à vous.
Les souvenirs, ça fait partie de notre culture. Merci à Cyril
Melamorinerie
et merci à tous. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite et merci. Vous êtes sur Europe 1, le studio des légendes, et puis on a oublié, on a de plus en plus d'auditeurs. Merci de nous faire confiance le vendredi soir sur Europe 1. À tout de suite.
21h, 22h, le studio des légendes sur Europe 1.
Deuxième invité, mon ami Florian Anselme, qui vient d'écrire un livre formidable sur le PSG, PSG All-Star, aux éditions Amphora. Je connais bien Florian parce qu'il travaille au JDD, donc il fait partie de la famille.
Voilà, bonjour Jacques.
On se voit régulièrement. L'inévitable question par rapport au résultat du Paris Saint-Germain, c'est une très bonne idée d'avoir fait ce livre, parce qu'il est chaleureux et les gens ont envie de l'acheter.
C'était l'idée, et l'idée c'était de donner du bonheur surtout aux supporters qui suivent ce club.
Humaniser le club, on va dire ça comme ça.
Voilà, humaniser le club, parce qu'un club avant tout c'est des joueurs. On a choisi les 100 plus grands joueurs, évidemment selon nos critères de l'histoire du club. On n'imaginait pas à l'époque que Paris réaliserait un tel parcours cette saison avec 6 trophées majeurs et donc la plus belle saison de leur histoire. Donc on avoue qu'on est assez content de sortir ce livre au moment... du plus beau passage de l'histoire du club, en tout cas en termes de résultats.
C'est quoi les points forts du Paris Saint-Germain pour vous, excepté bien sûr la victoire en Ligue des Champions ?
Le point fort pour moi, c'est le changement de projet. C'est-à-dire qu'ils ont compris à un moment que les plus grandes stars du monde sur la pelouse, Messi, Neymar, etc., c'était très beau, c'était beaucoup de paillettes. Mais c'était finalement dans les moments cruciaux, pas les résultats escomptés. Donc le nouveau projet emmené par Luis Enrique qui correspond peut-être plus à la mentalité de départ du club, c'est-à-dire un vrai club solidaire, collectif, un peu comme le PSG que tu as bien connu des années 90, des Weah, Ginola, etc. C'est plus dans l'esprit, je trouve, du Paris Saint-Germain. Donc ça fonctionne parce qu'il y a des joueurs de très haut niveau qui sont des stars aussi dans leur domaine. Dembélé, quand il arrive, c'est quand même un client déjà. Mais il y a aussi des jeunes, des très bons choix de jeunes joueurs qui sont faits, et une mayonnaise qui prend, et un club qui finalement réussit enfin à obtenir ce qu'il cherche.
Qu'est-ce qui marche actuellement au Paris Saint-Germain, en dehors des résultats? Attention, hein, c'est l'arrivée d'Enrique, c'est l'état d'esprit, le nouveau centre d'entraînement. En tous les cas, tout est fait pour que ce club continue à grandir immensément. Peut-être pas rejoindre le Real ou le Bayern de Munich, mais en tous les cas, ils sont sur le chemin.
Oui, pour moi...
C'est le but, de toute façon.
C'est le but. Pour moi, il y a une locomotive, et elle s'appelle Luis Enrique. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec des idées. On en a beaucoup douté, parce que l'année dernière, à la même époque, souviens-toi, les résultats étaient moyens, surtout en Ligue des Champions. Et puis finalement, ça a fini par prendre, justement parce qu'il s'est appuyé sur une mentalité, sur un travail, sur une jeunesse, et qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Et moi, je suis... dans la catégorie de ceux qui pensent que ce PSG-là peut s'inscrire dans la lignée du grand Milan des années 90, du grand Ajax. Je pense que ce Paris Saint-Germain, sur 4, 5, 6 saisons, peut marquer l'histoire du foot. Il y aura des moments clés qu'il faudra savoir passer. En ce moment, ils sont dans une situation un peu compliquée, par exemple. Ils viennent de se faire éliminer en coupe. On va voir comment ils vont rebondir. Mais je pense que c'est un club qui a les ressources aujourd'hui et qui a le projet pour créer quelque chose qui dure.
On a reproché à ce club un manque d'affect, un manque de communication. Et là, maintenant, franchement, ils y sont.
Bien
et
sûr.
C'est bien.
Ouais.
Ils ont grandi positivement.
Oui, et on l'a vu l'an dernier, je crois, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a eu un élan populaire positif qui n'avait été jamais vu en France autour du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que l'épopée en Ligue des Champions a conquis les quatre coins de l'Hexagone, qu'on soit, alors, peut-être pas à Marseille, mais en tout cas dans la plupart des coins de France, on a été derrière le Paris Saint-Germain d'une façon où statistiquement, ça a été démontré, ça n'avait été encore jamais atteint. Donc cette popularité, elle a été, ils sont allés la chercher aussi avec de l'humilité et du travail, avec des joueurs peut-être, on en parlait au début, peut-être moins clinquants, mais des Joao Neves, des Pacho, des Nuno Mendes, des Hakimi, c'est-à-dire des
qu'on
joueurs...
Qu'on connaissait, mais
bien sûr.
Jamais... On aurait imaginé qu'ils arrivent à un tel niveau.
Non, parce qu'ils avaient cette jeunesse, peut-être ce manque d'expérience aussi par rapport aux joueurs qu'on citait au début. C'est sûr que Joao Neves, c'est pas Messi. Quand Luis Enrique fait partir Verratti, personne comprend. Et puis bah, finalement, on comprend qu'il a une idée derrière la tête et qu'un Zaïre Emery, un Vitinha et un Joao Neves... C'est peut-être moins spectaculaire au départ, et finalement, ça fait le job, et ça fait même bien plus que ça.
Vous le voyez comment le Paris Saint-Germain cette saison ?
Je parle
en Ligue des Champions. Hein.
Ouais, mais je pense que ça va... C'est un moment clé, on en parlait, c'est-à-dire que c'est cette saison qu'ils doivent confirmer, c'est-à-dire que s'ils confirment, ils feront ce que j'espère et ce que je pense, c'est-à-dire rentrer dans la cour des grands sur le long terme des équipes qui ont marqué l'histoire. Et il va falloir qu'ils aillent au moins dans le dernier carré de Ligue des Champions. Je pense que c'est possible, ça va dépendre du tirage, ça va dépendre aussi des blessés. On a vu qu'ils ont eu des blessés très importants en début de saison. Est-ce que ça va enfin s'arrêter ? Est-ce que ça va continuer ? Il y aura des facteurs X, le gardien Chevalier, est-ce qu'il va être à la hauteur des attentes placées en lui ? Il a quand même
Lucas
remplacé...
Lucas Chevalier, je vous le dis tout de suite, c'est l'un des meilleurs gardiens de lutte du monde.
Et ben voilà. J'espère que...
Il a eu des moments un peu compliqués, comme tous les grands gardiens du monde ont eu des... Moment compliqué quand ils étaient titulaires dans un club. Ça date pas d'aujourd'hui. Chevalier n'est pas un cas particulier. Chevalier, on en parle parce qu'il est de Paris Saint-Germain. Mais quand vous connaissez le football bien, vous regardez les 20 dernières années, les grands gardiens des grandes équipes, à un moment, il y a un petit coup de fatigue. Et ce sont des choses qui arrivent.
Bien sûr, d'autant qu'il faut qu'ils s'adaptent à un changement de dimension, un changement de club, de mentalité, etc. Et là, on voit d'ailleurs que depuis le début d'année, il y a des promesses qui commencent à être tenues. Donc voilà, je pense que le Paris Saint-Germain de cette année, pour répondre à la question, est peut-être encore plus fort que l'an dernier, mais il va devoir passer certaines étapes. Là, par exemple, il se dit qu'il devrait recruter au mercato d'hiver parce qu'ils n'ont peut-être pas assez fait les choses au dernier mercato d'été. Est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont aussi bien le faire que l'an dernier ? Souvenons-nous, Kvaratskhelia qui arrive en janvier. Bah, s'il n'arrive pas, il n'y a peut-être pas le même parcours en Ligue des Champions derrière. Donc c'est ce que va devoir continuer à faire le PSG, c'est-à-dire continuer à recruter malin, à recruter bien, plus d'une façon délirante comme ils l'ont fait avant avec les joueurs les plus grands de la planète qu'ils allaient chercher régulièrement. Il va falloir être sur le même projet, sur cette même mentalité, avec un Luis Enrique qui est aujourd'hui, je pense, le meilleur entraîneur du monde.
Est-ce qu'on peut parler de Luis Enrique ? Il est comment ?
Ah bah, je ne sais pas si nos auditeurs ont vu. Vous ne pouvez pas comprendre le documentaire assez incroyable qui a été diffusé sur Canal+.
Bien sûr, bien sûr.
Mais c'est quelqu'un qui a une méthode, qui a un lien avec les joueurs particuliers. Et puis, tu le sais, c'est un ancien joueur, un ancien grand joueur. Donc c'est
de Barcelone.
De Barcelone. Il est même aussi passé par le Real. C'est quelqu'un qui connaît le terrain. Et
international espagnol.
International espagnol. Intransigeant, avec un énorme caractère, énorme bosseur. Et puis, qui a une façon de jouer au football qui correspond à ce Paris Saint-Germain-là et aux ambitions de ce Paris Saint-Germain-là, c'est-à-dire beaucoup plus que le PSG des Neymar, Messi, Mbappé, Verratti, qui était finalement une équipe qui avait tendance un petit peu s'endormir sur ses lauriers. Luis Enrique, lui, il voit toujours plus loin. Il l'a dit, souvenons-nous, l'année dernière, quand il était critiqué, il a dit « on va tout gagner ». Et il a tout gagné. À l'époque, quand il a dit ça, prenez ça pour de la provoque, on était presque gênés par ses déclarations. Il a dit, au même moment, il y a un an, nous allons tout gagner. Donc pour moi, ça, c'est la marque des très grands entraîneurs. Et je pense que dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, il va marquer l'histoire comme peu d'entraîneurs l'ont fait. Il ne faut pas oublier qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions avec Barcelone. Il vient, il la gagne avec le PSG. Des entraîneurs qui gagnent des Ligues des Champions avec plusieurs clubs, il n'y en a pas beaucoup.
C'est la référence. Ligue des Champions, quoi arrive, c'est la référence.
Bien sûr.
Il y a un côté obsessionnel, ce qui est normal.
Bien sûr.
C'est la plus belle des compétitions.
C'est la plus belle et c'est la plus dure.
La plus dure et la plus belle.
Aller remporter cette compétition-là, c'est quand même... Il y a peu de part à la chance. C'est-à-dire que c'est vraiment du travail, faut avoir un effectif, faut avoir une stratégie, une tactique, des supporters, des moyens, des grands joueurs, un peu de chance aussi. Enfin, c'est tellement de paramètres que Luis Enrique, justement, a réussi à conjuguer qu'honnêtement, je pense qu'on peut lui faire confiance pour aller en chercher une deuxième, peut-être pas dès cette année, mais en tout cas, voilà, je pense que le PSG, avec un entraîneur comme ça, j'espère qu'ils le garderont le plus longtemps possible.
On peut parler de Dembélé, qui est un personnage hors norme, très grand joueur, ballon d'or, évidemment, début de saison un peu compliqué parce qu'il a été blessé, mais là aussi, ça fait partie du côté attachant du Paris Saint-Germain. Dembélé, même si c'est pas un grand communicant, il apporte de la folie, il apporte de la fraîcheur, ouais. Il apporte de l'amitié, il apporte des choses qu'on n'avait pas avant.
Oui, et puis c'est... tu dis c'est pas
très respectueux.
Voilà, et tu vois, je vais prendre un exemple, c'est ses larmes le jour de la remise du Ballon d'Or et ses mots pour sa maman, tu vois. C'est des choses dans le monde du foot très aseptisées qu'on voit de moins en moins. Et je trouve que c'est à son image. Moi, tous les échos que j'ai de lui, c'est que c'est un gars bien, quelqu'un qui a les pieds sur terre malgré tout son talent, malgré son parcours, même s'il l'a reconnu lui-même, il a fait des erreurs dans sa jeunesse. Et c'est un joueur qui était intrinsèquement l'un des plus grands joueurs de sa génération, mais qui avait du mal dans le dernier geste. Et justement, tu me parlais de Luis Enrique juste avant, et ben, il restera l'entraîneur qui l'a mis à un nouveau poste, en pointe, comme avant-centre, et qui en a fait l'un des buteurs les plus redoutables d'Europe, et un ballon d'or. Donc, Dembélé avait presque tout ce qu'il fallait. La rencontre avec Luis Enrique a donné un cocktail explosif. Là, cette année, comme tu dis, il a un peu plus de mal, il a été blessé, il a du mal un peu à revenir, mais s'il se reblesse pas en touchant du bois, je pense qu'il va retrouver son niveau et qu'il va... Il y a une Coupe du Monde aussi à la fin de l'année, parce qu'on parle du PSG, mais il y a aussi l'équipe de France à la fin de l'année. Je pense que Dembélé a encore 2-3 saisons devant lui, s'il ne se blesse pas, où il peut faire très très mal.
C'est quoi maintenant, dans les 3 ou 4 prochaines années, avec Luis Enrique, l'avenir du Paris Saint-Germain ? Que tout le monde se pose la question en fait.
Bien sûr, pour moi, il y a deux paramètres. C'est déjà les jeunes qui sont dans le club et qui sont en train de devenir des stars. Vitinha, João Neves, Zaire Emery, Pacho, Nuno Mendes. Déjà, vont-ils rester ? Dans quel état d'esprit vont-ils rester ? Est-ce qu'ils vont rester humbles, Désiré Doué, Barcola ? Est-ce qu'ils vont rester humbles, ce qui leur a permis d'aller chercher cette Ligue des Champions ? Est-ce qu'il y en a qui vont un peu décrocher, perdre pied ? Ce sera le facteur X, ce sera le paramètre le plus important. Mais je suis très confiant parce que si eux n'y arrivent pas, le PSG ira chercher ceux qui pourront maintenir le club dans cette dimension.
Tradition dans cette émission que me rappelle Océane Daniel, il faut choisir une chanson française que vous aimez profondément et qu'on va écouter dans quelques secondes. C'est une tradition.
Eh ben, elle m'en a parlé, oui. Moi, j'ai choisi une chanson de Vianney qui s'appelle La Fierté, qui pourrait être une chanson qui parle de football, mais il se trouve qu'il parle de sa mère, en tout cas dans le premier couplet, et que c'est une chanson assez magnifique, qui est, je trouve, à dédier à toutes les mamans, et que Vianney est, pour moi, un chanteur de variété aujourd'hui, l'un des rares qui arrive à rejoindre la cour des grands, en fait, parce qu'il a une voix, parce qu'il a une sensibilité, parce qu'il a une histoire, il a une bonhomie, une sympathie, et que c'est un chanteur qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie d'écouter, et que ses chansons sont magnifiques. Et il se trouve que celle-là, La Fierté, elle est enregistrée avec un rappeur qui s'appelle Gazo, donc c'est le mariage aussi avec le rap français, qui est la musique la plus écoutée en France aujourd'hui, il faut le dire. Et Vianney a su conjuguer la variété et le rap avec beaucoup de talent. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson.
On va l'écouter.
Maman, t'as eu du monde à nourrir. T'as pas compté ton temps, ni les jours à offrir. Maman, Moi j'ai fait de mon mieux, mais pas tout le temps. Pardon du peu. Maman, je suis devenue riche, mais pas comme on l'entend, comme certains l'affichent. Non maman, ce que j'ai de précieux, c'est les brillants dans tes yeux. La fierté, la fierté, la fierté. La fierté, la fierté, la fierté. La fierté, la fierté, la fierté. Tout pour la fierté de ceux qui nous ont fait.
Billets verts et violets, tous les jours on compte ça. Ce que j'ai enduré, je le raconte pas. Tout m'a saoulé, j'ai des envies d'aller autre part. C'est quand t'as réussi que les autres parlent. Big house, la roulée qui fait tic-tac. Tic-toc ou un travail qui rend toc-toc. J'pec-pec, faut délever sur le tec-tec. Toc-toc.
Merci Florian Anselme.
Merci
d'être venu.
Merci infiniment.
Je rappelle votre livre, allez. PSG All-Star, édition Amphora. C'est encore les cadeaux, même si on est à mi-janvier.
Ah, bien sûr, si on a un peu de retard.
Et si on aime le Paris Saint-Germain, si on aime le football tout simplement, je vous recommande, auditeurs d'Europe 1, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, eh bien je vous propose dans le studio des légendes ce livre magnifique de mon ami Florian Anselme. À tout de suite.
21h, 22h, le studio des légendes sur Europe 1.
Troisième invité, notre consultant football, Alain Giresse. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Je voulais absolument, en ce vendredi soir, eh bien rendre hommage à Roland Courbis, qui nous a quittés il y a quelques jours. C'est ce que je disais, partout, c'est un personnage hors norme, hyper attachant. On est forcément obligé d'aimer ce mec.
Oui, vous avez raison de lui rendre hommage, Jacques. Franchement, vous avez tout dit. Je le connais depuis l'équipe de France Junior. Alors, l'équipe de France Junior, c'est maintenant les moins de 18 ans. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est là qu'a tout commencé dans notre relation à l'intérieur du football. Voilà, un personnage très ouvert, très à l'écoute d'abord des gens qui l'entourent, des joueurs de foot quand il était entraîneur. Oui, voilà. Un garçon du Sud, voilà, avec beaucoup de verve, beaucoup de faconde. Et puis, toujours délicat vis-à-vis des personnes qu'il appréciait.
Il était très attachant.
Il était très
attachant. Plus qu'attachant, plus qu'attachant.
Mais oui, mais parce que si vous voulez...
Personnage, voilà.
Ça me fait penser à Pagnol. Et les films de Pagnol, c'était tout à fait ça. Vous savez, dans le sud-est, là-bas, du côté de Marseille, ils ont une façon d'aborder les événements, les situations, de vous accueillir. Et lui, il était là-dedans. Et il a transporté ça partout, dans toutes les régions, dans tous les clubs où il est allé. Et on ne peut pas laisser indifférent. Et vraiment, c'est plaisant. Quoi. C'est plaisant d'avoir la possibilité d'évoquer, de parler avec lui de cette manière-là. Il n'y a rien qui refute quand on est avec lui.
Ce qui est important aussi, c'est que vous l'avez côtoyé, vous avez joué avec lui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a fait tous les métiers possibles et inimaginables dans le football. Il ne faut pas oublier, Alain, et vous avez raison. Ça a été un super joueur à Monaco, il est champion de France. Il joue libéro un peu à l'ancienne, comme Franz Beckenbauer, avec Bernard Gardon dans l'axe central, Albert Vitalis, etc., etc. Il a fait une très belle carrière de joueur qui a duré 10 ans, donc on ne s'en souvient pas très bien, parce qu'il y a longtemps. Après, il est devenu entraîneur, il est devenu dirigeant, il a tout fait.
Oui, non, on se souvient surtout de ça. Joueur, ça ne dure pas très longtemps. Et après,
ah ben, 10 ans.
Peugeot. Impossible de résister aux leaders de l'hybride. Jusqu'au 31 janvier, pendant les irrésistibles Peugeot, craquez pour la 208 hybride dès 169 € par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Rendez-vous en point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 15 au 19 janvier.
Source 3A au 30 novembre 2025. LLD 49 mois, 40 000 km pour une 208 style hybride. Premier loyer 2 500 €. Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise et acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Avec Roland, c'est un très bon joueur. Oui, il a fait une belle carrière.
Non, mais le plus extraordinaire avec Roland Courbis, il a fait croire aux dirigeants du football français et aux dirigeants du football grec qu'il avait un arrière-grand-père qui était grec. Et c'est pour ça qu'il a signé à Olympiakos. C'est incroyable comme histoire.
Oui, Courbis, ça pouvait être un nom grec.
Oui.
Vous savez, à l'époque, il y a un garçon qui était parti là-bas, Romain Argerudis, hein, qui était à Lens. Mais lui, il avait vraiment des origines grecques. Alors Roland, il a dit Courbis, Archirudis, c'est à peu près pareil. Donc je peux avoir la possibilité de trouver un grand-père quelque part qui me permette d'aller jouer à l'Olympiakos, ce qu'il a réalisé d'ailleurs.
Donc super joueur. Il a joué à Sochaux, il a joué à Monaco, il a joué aussi à Marseille. Il a débuté à Marseille, il ne faut pas l'oublier. Mais je veux dire, c'était, je le répète, on parle de ce côté, il avait ce côté un petit peu fantasque, etc. Mais il ne laissait personne indifférent. Et c'est important déjà, hein.
Ah, c'était
parce qu'il y a des gens qui sont incolores et inodores, on ne s'en souviendra jamais. Hein.
C'était un agréable coéquipier. Franchement, c'est plaisant de se dire, au quotidien, tous les jours, on n'est avec un joueur que lui. Moi, je ne l'ai pas eu, je n'ai pas joué dans le même club, je l'ai eu à travers la sélection, là, donc je vous évoquais. Mais voilà, c'était le soleil dans un vestiaire, là, même en plein hiver, mais c'était du soleil, avec toujours cette verve pour parler, sa façon de parler. Il avait toujours des formules et qu'il a toujours utilisées et qui étaient marquantes et on retenait toujours ces formules parce qu'elles avaient un sens.
Il y en a un qui est très content de la mort de Roland Courbis.
Ah, on en trouve un ?
Thierry Roland.
Ah, qui va le retrouver.
Eh oui.
Oui, et puis vous savez, moi j'évoque aussi Bernard Lacombe, parce qu'on faisait partie avec Bernard Lacombe, qui est décédé il n'y a pas longtemps, avec Roland, on était dans la même équipe d'équipe de France à la junior. Voilà. Et quand je regarde cette équipe maintenant, voilà, il y en a deux qui nous manquent, et Roland, on ne s'y attendait pas, comme Bernard d'ailleurs, Bernard Lacombe. Voilà, et moi ça me touche, parce que c'est toute l'histoire d'une jeunesse.
Ça nous touche, Alain, même si moi j'ai jamais été joueur professionnel, ça nous touche parce que, et c'est bien de parler de Roland Courbis ce vendredi soir, parce que c'est une partie de notre vie qui s'en va, quelque part.
Mais bien sûr, parce que, vous l'avez dit, Jacques, il laisse pas indifférent, il est présent, il a une présence, Roland, c'est un personnage. Quand on est personnage, je crois qu'on a tout dit, on est fatalement attaché à lui. Et quand tout d'un coup on apprend brutalement, comme ça a été le cas ce lundi, qui disparaît, on s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas là, on a du mal à y croire d'abord, et puis vous l'avez dit, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui disparaît de notre vie, parce qu'il faisait partie de notre environnement, de savoir...
Il faisait partie de l'ADN du foot français.
Oui, et par répercussion au nôtre.
Bien sûr.
Voilà, et de se dire qu'on avait Roland Courbis, il était là, il était toujours là, voilà, c'était une forme de normalité, c'était normal, et c'est d'être dans le sens des choses maintenant, mais voilà. Ça disparaît, il laissera un grand vide.
Il laissera un grand vide, mais on n'a pas été joueur, il a été aussi un grand dirigeant. Grand dirigeant, grand entraîneur, il ne faut pas l'oublier ça.
Ah, vous savez, vous avez évoqué des clubs, mais il a entraîné Toulouse, et à ce moment-là, moi j'étais directeur sportif à Toulouse, donc j'ai travaillé avec lui. Je l'accompagnais, j'étais à ses côtés sur le banc de touche, à ses côtés quand on parlait football, parce que je peux dire, c'est un passionné. Hein. C'était un passionné, vraiment, de football. Il parlait football du matin au soir, quoi. Et avec beaucoup de personnes. Il était souvent au téléphone pour parler d'un joueur, d'une équipe, etc. Voilà. Et j'ai passé de grands moments à ses côtés. Et alors après, effectivement, le côté bonne vie qu'il avait ici, vous savez, dans cette région de Toulouse, il y a, au niveau de gastronomie, il y a ce cassoulet. Et je peux vous dire qu'il était content d'aller passer les soirées à manger du cassoulet. Voilà, c'est des moments un peu personnels, mais voilà, que je repense.
Oui, mais avant tout, un grand professionnel. Il ne laissait rien au hasard. Oula, et c'est de plus en plus rare dans le football maintenant. Mais le Roland Courbis, ce n'était pas de l'à peu près.
Ah, je peux vous dire que... Il allait chercher le moindre détail, il allait vous sortir quelque chose par rapport à un joueur, dans les caractéristiques du joueur, par rapport à une équipe, comment elle jouait, comment elle se présentait dans un match. Mais je lui disais quelquefois, mais Roland, d'où tu sors tout ça? Mais t'as pas vu, j'ai réfléchi, j'ai regardé, etc. Ah, il était toujours ça. Je veux dire, un président ne pouvait pas se dire, mais qu'est-ce qui fait notre entraîneur? Ah, je peux vous dire que votre entraîneur... Il est en plein dans le foot et à s'occuper et à mettre en œuvre pour que l'équipe soit performante.
Alors évidemment, on parle de Roland Courbis, c'est de plus en plus compliqué maintenant d'être un nouveau Roland Courbis. C'est une autre période.
Mais on ne peut pas, des personnages comme ça...
Et heureusement oui, d'ailleurs.
Oui, parce que sa personnalité faisait qu'est rare, la façon dont... dont il évoluait dans ce monde du football, c'est rare. On n'en trouve pas beaucoup de personnages comme ça dans le monde du football. Et on n'en trouvera pas, parce qu'il est unique dans tout ce qu'il représentait, de la façon dont il fonctionnait dans notre football.
Ce qui est important, c'est qu'il aimait les gens. C'est pour ça que je suis content qu'on en parle ce soir dans le studio des légendes sur Europe 1. Il aimait les gens. Il donnait. Mais pas forcément pour recevoir, il donnait.
Ah ça oui, je peux vous dire que avec qui... Alors attention, hein, il fallait vraiment qu'il soit en phase avec les gens. Et là, comme vous avez dit, il donnait tout. Il était ouvert, il acceptait tout des personnes. Vraiment, c'était une grande générosité, il avait un grand cœur. Et vous savez, une anecdote pour moi, quand je l'ai connu à travers l'équipe de France Junior, au début, on ne se connaissait pas, on était jeunes, lui de Marseille, moi de Bordeaux, et il me dit au bout de quelques matchs, il me dit, tu sais, moi je t'apprécie beaucoup. Ah, mais c'est sympa, Roland, et tout ça, on était joueurs. Tu sais pourquoi? Parce que mon grand-père, il t'adore. Voilà, et le côté familial de Roland faisait que, voilà, il avait ce côté-là, et donc presque, il m'attachait à la famille parce que j'étais son grand-père, évidemment, qu'il adorait, m'appréciait beaucoup. Et ça, j'y repense toujours à ça.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de Roland Courbis? Le grand professionnalisme, la passion, le côté obsessionnel du football? Parce qu'en fait, quand on aime le football, il y a un côté obsessionnel pour tout le monde.
Moi, je dirais...
Quelque Jacques, part.
Oui, bien sûr. Mais je dirais l'homme vrai, un homme vrai dans tous les domaines que l'on peut retrouver dans un secteur dans le domaine du football. Voilà, il était vrai comme un vrai professionnel dans la façon de se comporter avec les gens, l'humanisme qu'il avait. Voilà, le joueur, la personne pleine de bonheur, de joie de vivre et qui faisait du bien. Je veux dire, être avec Roland, c'était du pur bonheur, quoi. Partager des moments avec lui, c'était du beau bonheur. Et c'est pour ça que je dis, on a parlé tout à l'heure, là, on a dit, c'est rare que comme ça, une personne représente aussi tellement de possibilités de faire plaisir aux gens. Mais ben, c'est pas évident.
On est triste, c'est incroyable, on est triste, on a perdu des amis. Bernard Lacombe, Jean-Louis Gasset, oui. Roland Courbis, plein de gens qui ont côtoyé ils ont fait partie de notre, de notre culture générale, etc. Et Roland, Bernard Lacombe, c'est pour ça qu'on les aimait, c'est pour ça que je tenais absolument qu'on en parle en tous les cas ce soir sur Europe, c'est qu'ils méritent qu'on ne les oublie pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oh, évidemment, c'est de la démago, on va dire Vendroux, patati, patata, il en fait trop. Mais pas du tout, on est ému.
Non, mais attendez, on fait...
Les donneurs de leçons qui vont dire « oui, papa ». Ouais, mais, mais on s'en fout. De toute façon, d'abord, on s'en fout. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier.
Non, mais,
le passé fait partie de notre vie.
Mais on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier ces gens-là, avec lesquels on a vécu, et ce qu'ils nous ont apporté, ce qu'ils nous ont donné, évidemment. Et c'est être humain, avant tout, de cela. Et effectivement... On est touché, très touché. Moi, je suis très touché par cela, par sa disparition, comme vous l'avez dit, de Jean-Louis Gasset et de Nanar.
Alors, moi, Bernard.
C'est notre histoire à nous, tout ça. Hein.
Voilà, Alain, on va terminer par une phrase magnifique. Enfin, une phrase magnifique que j'ai entendue, elle n'est pas de moi. J'ai vu récemment Jean-Michel Aulas à la télévision parler de sa campagne de Lyon. Il a rendu hommage à Bernard Lacombe. C'était extraordinaire, extraordinaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alain.
Jacques, vous avez parlé d'éventuellement donneurs de leçons, mais ça, on s'en fout. Je peux vous dire que nous, et je le sais, en tout cas, moi, je peux l'affirmer, puisque je me rends compte encore sur la tombe de Bernard Lacombe, comme je ferai avec Roland, et ça, c'est notre truc à nous. On reste pareil, on reste toujours avec eux, ils sont toujours avec nous, et resteront toujours avec nous. Et je peux vous dire que ça, jamais, jamais on l'oubliera. Jamais.
Merci Alain Giresse.
Avec plaisir, Jacques.
À bientôt.
Au plaisir, oui.
Alors, Alain Giresse, vous y êtes pour quelque chose. Nous avons de plus en plus d'auditeurs dans le studio des légendes.
Donc, ça.
Voilà.
J'ai cru voir ça, Jacques.
Ça ne vous a pas échappé.
Je dis, nous aussi, on a nos stats.
Exactement.
Voilà.
Merci.
Elles sont positives.
À Guillaume Vassot, merci aussi à Océane Daniel et merci surtout à tous les auditeurs de plus en plus nombreux. Merci. On vous embrasse et surtout, bonne année.
C'était le Studio des Légendes et vous retrouverez Jacques Vendroux dès vendredi prochain de 21h à 22h sur Europe 1. Dans un instant, le poulet du dimanche à redécouvrir. Sophie Dolan et Guillaume Bénèche nous donnent rendez-vous tous les dimanches de 14h à 15h sur Europe 1. Ils dressent la table pour un grand festin de discussion où toutes les générations se retrouvent autour des sujets qui pimentent les repas en famille. Mais avant de se remettre à table, on va écouter le nouveau Mathilda. I love you sur Europe 1.
Mais je sais pas bien comment faire. Y'a quelque chose en toi de bien plus fort que moi. Y'a quelque chose en toi que je ne comprends pas. Y'a quelque chose en toi qui me tue chaque fois. Y'a quelque chose en toi dont je ne me passerai pas. Qui pourra dire que je n'ai rien? Jamais, jamais je ne reviendrai. Tu sais qu'il ne faut jamais, jamais dire jamais, c'est vrai. La, 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 la. Y'a quelque chose en toi de bien plus fort que moi. Y'a quelque chose en toi que je ne comprends pas. Y'a quelque chose en toi qui me tue chaque fois. Y'a quelque chose en toi dont je ne me passerai pas. Dis-moi à quoi tu penses quand tu me regardes danser. C'est des flashs que tu lances, baby. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi à quoi tu penses quand tu me regardes danser. C'est des flashs que tu lances, baby. Europe 1.